Chapitre 60. Richard plaqua la lame du burin sur son front, comme il l'avait si souvent fait avec l'épée de vérité avant un combat. Ce qu'il attendait était une sorte de bataille. Il n'en doutait pas un instant. Un combat sans pitié entre la vie et la mort. « Ma lame, serre-moi fidèlement aujourd'hui, » murmura-t-il. Le manche du burin était octogonal afin d'assurer une meilleure prise quand on avait les mains moites. Victor avait fait un travail magnifique, donnant à la pointerolle l'angle et le coefficient de taille parfait pour ce que Richard voulait en faire. Très fier de sa réalisation, le forgeron avait gravé ses initiales sur une des facettes. Très lourd, ce burin ferait éclater franchement la pierre et éliminerait en un temps record la matière superflue. Mais il fissurerait le marbre sur une profondeur d'environ 2 pouces, générant un réseau de craquelures d'un diamètre 5 ou 6 fois supérieur. Un seul coup un peu trop appuyé sur un défaut invisible du marbre et le bloc entier pouvait se fissurer puis éclater. Un burin plus léger et plus fin blesserait moins le marbre, mais éliminerait peu de matière superflue. Cela dit, même avec une lame du plus petit calibre, Richard savait qu'il ne devrait pas approcher de plus d'un demi-pouce de ce qui serait la surface de la statue. Le réseau de craquelures en toile d'araignée laissé par un burin faisait perdre de la translucidité au matériau et interdisait l'obtention d'un poli de haute qualité. Pour que le marbre ressemble à de la peau, il fallait approcher prudemment de la couche finale et éviter soigneusement qu'elle soit endommagée par un outil. Après le dégrossissage, Richard utiliserait des gradines moyennes pour affiner les formes qu'il désirait donner à la pierre. Arrivé à 1 pouce de la couche finale, il utiliserait des gradines plus fines afin de travailler le marbre sans le fracturer. Passant sans cesse à des outils de plus en plus petits et précis, il aurait recours pour la finition à des burins droits, souvent 2 fois moins larges que son auriculaire. Sur le chantier, les sculpteurs n'allaient jamais au-delà de cette phase. En travaillant ainsi, on obtenait des surfaces rugueuses qui ressemblaient plus à du bois qu'à de la chair, et il était impossible de modeler fidèlement les muscles et les os. Du coup, les personnages étaient privés de leur humanité. Sur cette statue, le vrai travail commencerait là où les sculpteurs de l'ordre s'arrêteraient. Avec ses râpes, Richard donnerait une forme parfaite aux muscles et aux os, et il parviendrait même à restituer les veines apparentes sur les bras de ses personnages. Quand ce serait fini, les rifloirs élimineraient les dernières traces de coups de burin. Après plusieurs passages de pierre ponce pour faire disparaître les traces des rifloirs, la surface serait prête pour la finition à la pâte à polir, appliquée d'abord avec un morceau de cuir, puis un carré de tissu et enfin une poignée de paille. S'il ne commettait pas d'erreur, Richard réaliserait son rêve, transformer la pierre en chair et lui conférer toute la noblesse de l'humanité. Sa pointerolle dans la main gauche, il posa la lame contre le marbre et leva la masse qu'il tenait dans la main droite. Le cœur battant la chamade, il eut le sentiment de capter au plus profond de la pierre des pulsations qui faisaient écho aux siennes. L'osmose était le maître mot de l'art, mais il fallait mettre la main à la pâte pour le savoir, d'où le gouffre qui existait presque toujours entre les critiques et les artistes. Avant de frapper son premier coup de masse, Richard pensa à Callan. Près d'un an s'était écoulé depuis qu'il l'avait regardé dans les yeux pour la dernière fois. Après un hiver passé en sécurité, elle avait dû quitter la cabane pour aller braver les dangers qu'il pouvait hélas parfaitement imaginer. Un instant, Richard faillit céder au désespoir. Pourquoi s'entêtait-il à vivre, puisqu'elle lui manquait tellement et qu'il ne la reverrait sûrement pas? Quelle indomptable force en lui s'acharnait à le pousser en avant alors qu'il se serait volontiers arrêté sur le bord du chemin pour s'allonger et attendre la fin. Comme chaque soir, il souhaita une bonne nuit à sa bien-aimée. Puis, il la chassa de ses pensées, consciente en tout cas, pour se concentrer sur la tâche qui l'attendait. Après s'être assuré que la pointe du burin était bien positionnée à 90 degrés de sa cible, le sorcier donna son premier coup de masse. Sous la violence du coup, des éclats de marbre volèrent dans les airs. Voilà, la bataille était commencée. À la lumière des lampes que lui avait laissé Victor, Richard s'immergea dans son travail, frappant coup après coup. Des éclats de pierre lui entaillèrent les bras et la poitrine, mais il ne s'en soucia pas car le marbre, devant ses yeux, commençait à prendre la forme qu'il souhaitait lui donner. Le bruit de la masse qui s'abattait sur la pointerolle évoquait à ses oreilles une musique militaire, et les éclats de marbre qui tombaient sur le sol ressemblaient à des ennemis abattus. Comme une colonne de poussière soulevée par les sabots de destrier, une brume blanche tourbillonnait autour de lui. Richard savait très exactement quel résultat il voulait obtenir. Ayant réfléchi à ce qu'il fallait faire et à la façon de s'y prendre, il n'avait plus besoin de méditer. Un observateur non initié aurait cru qu'il sculptait d'instinct, mais ce n'était pas ça du tout. À moins de postuler qu'il fût possible, à force de préparation et d'exercice, de se fabriquer un instinct. Couvert de poussière blanche, ses vêtements noirs à l'origine étaient désormais de la même couleur que le marbre. L'osmose, la fusion. Oui, c'était bien cela la clé de tout. Pourtant, contrairement à la pierre, ses bras constellés de coupures saignaient. Mais dans une bataille, il fallait bien que quelqu'un verse son sang. De temps en temps, Richard ouvrait la double porte et, avec un balai, poussait dehors la poussière blanche qui lui arrivait à certains moments jusqu'aux chevilles. Quand il sortait pour jeter les gravats dehors, l'air frais de la nuit le dégrisait un peu le temps qu'il reprenne son souffle. Mais il ne tardait pas à rentrer et à refermer la porte pour reprendre son duel contre le monolithe. Pour la première fois depuis un an, le sorcier se sentait libre. En sculptant, il était le seul maître à bord, et personne ne pouvait lui dire ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Cet art ne lui imposait qu'une règle, rechercher à tout prix la perfection. Ses outils à la main n'étaient sous les ordres de personne et ne portaient plus de chaîne. L'œuvre finale, qui lui coûterait sans doute sa tête, serait la négation de tout ce que représentait l'ordre impérial, car il avait l'intention de représenter la vie. Dès qu'il verrait la statue, les frères le condamneraient à mort. Mais ce serait trop tard puisqu'il n'aurait pas pu l'empêcher de sculpter son œuvre. Chaque coup de masse l'approchait de son objectif final et les portait avec la violence d'un guerrier. Mais sans sacrifier la précision et en dosant néanmoins ses forces. Pour plus de sécurité, il avait d'ailleurs renoncé à commencer le dégrossissage avec une masse de tailleur de pierre. Cet outil à la tête spéciale évitait d'utiliser un burin et on éliminait beaucoup plus vite la matière superflue. Mais en frappant ainsi le marbre, surtout quand il avait un défaut, comme celui-là, on risquait de faire éclater le bloc. Et même si la pierre au début était résistante et particulièrement difficile à casser, il s'agissait d'un risque que Richard ne pouvait pas courir. Pour les trous qu'il devrait percer, il avait prévu de se faire fabriquer par Victor un jeu de trépans de tous les calibres. En enroulant une corde d'arc autour du manche de l'outil, puis en la déroulant très vite, on obtenait un mouvement de rotation assez rapide pour pénétrer dans le marbre. Le défaut du bloc lui avait valu de longues heures de réflexion tourmentée. Le mieux, avait-il conclu, était d'éliminer toute la partie fragilisée du monolithe. Mais avant, afin d'éviter une fissuration en réseau, il devrait percer des trous pour réduire la résistance interne du matériau. D'abord dans la fissure, le travail le plus délicat, puis tout autour, pour affaiblir la pierre dans la zone défectueuse et, en quelque sorte, découper une grande tranche qui engloberait toute la craquelure. L'œuvre finale représenterait deux personnages, un homme et une femme. Quand Richard aurait terminé la phase préliminaire, l'espace qui les séparerait correspondrait à la partie fissurée du bloc. Le défaut de la cuirasse éliminée, les deux colonnes de marbre restantes seraient assez solides pour supporter d'être sculptées. La fissure prenant naissance à la base du monolithe, il ne l'aurait pas totalement éradiquée, mais suffisamment réduite pour qu'elle ne risque pas de ruiner son travail. C'était tout le secret de la méthode qu'il avait imaginée. Éliminer le point faible et travailler sur la partie saine du marbre. Loin de se lamenter parce que le bloc n'était pas parfait, Richard s'en réjouissait. Primo, parce que Victor n'aurait jamais pu s'offrir le monolithe s'il avait été impeccable. Secondo, parce que cet obstacle supplémentaire l'avait forcé à réfléchir à la façon de sculpter cette masse de marbre. Le concept même de la statue était dérivé de là. Avec une matière première sans défaut, il ne serait sans doute pas parvenu au même résultat. En travaillant, Richard se sentit de plus en plus gagné par la fièvre de la bataille. Le bloc se dressait devant lui, et il devait le délester de sa matière inutile pour atteindre l'essence même de sa création. Chaque fois qu'un gros fragment se détachait, s'écrasant sur le sol avec un bruit de fin du monde, on eût dit qu'il venait d'abattre un géant. Immanquablement, des éclats et de la poussière tombaient sur le cadavre, l'ensevelissant dignement. Chaque fois qu'il ouvrait la porte pour nettoyer son atelier improvisé, Richard jetait un coup d'œil au bloc et s'émerveillait de le voir peu à peu prendre la forme qu'il avait mentalement imaginée. Les personnages étaient encore enchâssés dans le marbre, leurs bras et leurs jambes loin d'être dégagés, mais ils venaient lentement au monde, comme des silhouettes qui se précisent en sortant d'un épais brouillard. Pour les bras, Richard devrait être prudent. Afin qu'il ne se casse pas, il devrait utiliser ses trépans et procéder comme avec la partie défectueuse pour retirer le marbre qui les entourait. Quand la lumière du jour filtra de la haute fenêtre, le sourcier sursauta. Il avait travaillé toute la nuit sans s'en apercevoir. Reculant un peu, il admira l'ébauche qu'il venait de réaliser. Les personnages n'étaient encore que deux cônes informes, mais on distinguait nettement leurs bras, qui seraient bientôt libérés de l'emprise de la pierre. Les personnages qu'il devait sculpter pour l'ordre restaient toujours encastrés dans la masse, rigides comme des cadavres et incapables de donner l'illusion du mouvement. En une nuit, Richard avait éliminé environ la moitié de la masse originelle du bloc. Il aurait aimé continuer à travailler, mais c'était impossible. S'emparant de la bâche que Victor lui avait procurée, il recouvrit la statue. Quand il ouvrit la double porte, le forgeron l'attendait, assis près d'un impressionnant monticule de gravats.
« Richard, tu as travaillé toute la nuit ?»«
On dirait bien, oui. »«
Tout blanc, comme ça ?» T'as l'air d'un esprit du bien. Comment s'est passée ta bataille contre la pierre ?
Richard ne trouva pas les mots pour répondre, mais son sourire en dit beaucoup plus long qu'un interminable discours.
« Je vois, je vois !»
fit Victor sans cacher sa jubilation.
« Tu dois être épuisé, mon pauvre ami. Viens t'asseoir et repose-toi un peu avant de te régaler de l'ardo. »
Nietzsche entendit Camille et Nabi saluer joyeusement Richard, qui devait venir d'apparaître dans la rue puis dévaler les marches pour courir à sa rencontre. Se campant devant la fenêtre, elle vit les deux adolescents accueillir leur ami à grand renfort de tapes sur les épaules. Elle aussi était ravie qu'il rentre au crépuscule pour une fois. Depuis qu'il travaillait sur la statue commandée par le frère Narev, elle ne le voyait presque plus. Comment supportait-il de se consacrer à une œuvre qui le répugnait? Chaque coup de burin devait lui retourner le cœur. Pourtant, il semblait plein d'enthousiasme. Presque tous les jours, après avoir passé des heures à sculpter des scènes édifiantes sur les murs du palais, il s'échinait sur sa commande jusqu'à très tard dans la nuit. Lorsqu'il rentrait, et bien qu'il fût épuisé, il semblait ne pas pouvoir tenir en place. Certains soirs, il dormait à peine 2 heures, filait s'occuper de la statue et enchaînait sur sa journée de travail officielle. Richard semblait indestructible. Et la sœur de l'obscurité se demandait comment il faisait. Lorsqu'il dormait moins d'une heure avant d'entamer sa séance de nuit, elle l'implorait de se reposer un peu, mais il ne l'écoutait jamais, arguant qu'il n'avait aucune envie de retourner en prison. Manquer de sommeil, disait-il, était préférable à dormir 6 pieds sous terre. Depuis qu'il vivait dans l'ancien monde, Richard était plus élancé et musclé que jamais. Travailler physiquement avait développé et affiné sa silhouette. Quand il enlevait sa chemise pour aller la rincer à l'eau claire ou la voir, Nietzsche était troublé au point d'en avoir les genoux tremblants. Elle entendit des bruits de pas dans le couloir, puis capta les échos des voix excitées de Camille et de Nabi. D'un ton mesuré, comme toujours, Richard leur répondait avec une infinie patience. Même mort de fatigue, il prenait toujours le temps de parler avec ses deux amis et les autres résidents de l'immeuble. Sans nul doute, il allait descendre dans l'arrière-cour pour jeter un coup d'œil aux sculptures des deux garçons. Pendant la journée, Camille et Nabi tenaient lieu d'hommes d'entretien et de jardiniers, surtout quand il s'agissait de retourner la terre, un travail que les femmes n'aimaient pas. Passant leur temps à laver, peindre et réparer, ils attendaient avec impatience les louanges ou les critiques, assez rares, de Richard. Avec Nietzsche, les deux adolescents se montraient extrêmement serviables. Après tout, elle était l'épouse de leur idole. Quand Richard entra, la sœur de l'obscurité était occupée à couper des carottes et des oignons pour une jardinière de légumes.
« Je suis juste passé manger un morceau, » dit-il en se laissant tomber sur une chaise. « Après je filerai parce que la statue ne doit pas prendre de retard.
Le ragoût est pour demain, mais je t'ai préparé du millet.
Tu l'as accommodé avec quelque chose de plus appétissant ?
Désolé, mais je n'avais pas assez d'argent pour ça.
Richard acquiesça sans se plaindre. Malgré sa fatigue, il y avait dans son regard une passion intérieure qui accélérait les battements du cœur de Nietzsche. Cette vitalité qu'elle avait vue en lui au Palais des Prophètes le premier jour était à son zénith depuis le soir où elle avait failli lui transpercer le cœur avec un couteau.
« Demain, il y aura une bonne jardinière avec les légumes du potager. »
Perdu dans sa vision intérieure, Richard hocha distraitement la tête. Nietzsche servit une assiette de millet et la posa devant Richard. Elle n'en avait pas laissé beaucoup dans la casserole, mais il avait plus besoin de manger qu'elle. Après avoir passé la matinée à faire la queue pour acheter le millet, il lui avait fallu des heures pour le débarrasser des asticots. Moins méticuleuse, certaines femmes faisaient cuire le tout assez longtemps pour qu'on ne remarque plus la présence des parasites, mais elle aurait détesté traiter ainsi Richard. Tout en coupant ses carottes, elle parvint enfin à prononcer les mots qui lui brûlaient les lèvres.
« Richard, je veux t'accompagner sur le chantier et voir la statue que tu es en train de sculpter pour le frère Narev.
Je souhaite que tu l'admires, Nietzsche, mais pas avant qu'elle soit terminée.
Pourquoi ?
Ne peux-tu pas me faire confiance pour une fois ?
Laisse-moi finir et tu découvriras la statue. »
Nietzsche sentit son estomac se nouer. Cette affaire était vraiment capitale pour lui.
Tu ne copies pas le modèle, n'est-ce pas ?
Richard leva les yeux de son assiette de millet.
Exact. Je sculpte ce que j'ai envie de créer et ce que les gens ont besoin de voir.
Nietzsche déglutit péniblement. Le moment qu'elle attendait depuis le début était arrivé. Richard avait failli baisser les bras, puis son énergie lui était revenue, et à présent il était prêt à mourir pour une idée. Elle détourna la tête, fuyant ses magnifiques yeux gris.
« J'attendrai que tu aies fini, si c'est si important pour toi. »
Maintenant, Nietzsche savait pourquoi Richard était tellement exalté ces derniers temps. Les étincelles qu'elle avait vues briller dans les yeux de son père, puis dans ceux du sourcier, avaient un lien avec cet état de surexcitation. Cette idée même donnait le tournis à la sœur de l'obscurité. En dernière analyse, il s'agissait d'une affaire de vie ou de mort.
« Tu es sûr de ce que tu fais, Richard ?»«
Oui. »«
Dans ce cas, j'accéderai à ta requête. »
Le lendemain, Nietzsche se leva très tôt pour être sûr d'obtenir du pain. Richard serait ravi d'en avoir avec ses légumes et elle tenait à lui faire plaisir. Camille lui proposa de faire la queue à sa place, mais elle avait très envie de sortir. Elle demanda donc au garçon de surveiller la jardinière qui mijotait sur la cheminée, puis quitta l'immeuble. Le ciel plombé et l'air mordant annonçaient l'arrivée imminente de l'hiver. Comme toujours, les rues grouillaient de malheureux à la recherche d'un emploi, de charrettes chargées de tout ce qu'on pouvait imaginer, et de chariots qui, pour l'essentiel, transportaient du matériel destiné au chantier. Nietzsche marcha prudemment, car la chaussée était constellée de trous et dut se concentrer pour fendre le plus vite possible la foule qui avançait à une lenteur exaspérante. Les traits de misère venus à halte-rang avec l'espoir de trouver du travail erraient comme des automates dans les artères d'une cité indifférente à leur malheur. Devant les boulangeries, les queues étaient plus longues que jamais. Au moins, l'ordre s'assurait que les citoyens aient du pain, même s'il était le plus souvent rassis et sans saveur. Avec une telle affluence, il fallait arriver tôt, parce que les boulangeries étaient souvent en rupture de stock dès le début de l'après-midi. Certains jours, tout le monde était excité parce qu'on murmurait que plusieurs variétés de pain seraient disponibles pour une fois. Aujourd'hui, Nietzsche comptait bien acheter un peu de beurre, histoire de gâter Richard. Avec le pain, c'était le produit alimentaire le moins cher, mais on n'en trouvait quasiment jamais. Après quelques 180 ans passés à aider les autres, Nietzsche devait reconnaître qu'ils allaient toujours aussi mal. Dans le Nouveau Monde, cependant, la situation était bien meilleure. Bientôt, quand l'ordre impérial y aurait pris le pouvoir, les nantis pourraient subvenir aux besoins des nécessiteux, et l'humanité entière vivrait dignement. C'était l'objectif de l'ordre, et il ferait en sorte qu'il en aille ainsi. La boulangerie étant à l'intersection de deux rues, la queue commençait sur un trottoir puis se prolongeait sur celui d'une autre voie. Alors qu'elle franchissait l'angle du pâté de maison, après des heures d'attente, Nietzsche aperçut dans la foule un visage qu'elle aurait reconnu entre mille. Au début, elle n'en crut pas ses yeux. Que faisait cette femme ici ?
Au moment où sa quête approchait du dénouement, elle n'avait aucune intention de le découvrir. Avec Richard, elle n'était plus loin de la conclusion et tout le reste devrait attendre. Nietzsche tira son châle noir sur ses cheveux et le noua sous son menton. Puis, elle se plaqua contre le mur, prenant garde à rester dissimulée derrière une femme à la silhouette plus que rondelette. Sœur Alessandra remontait la rue en dévisageant les clients de la boulangerie. On eût dit un prédateur à la recherche d'une victime. Deviner quel gibier elle chassait n'était pas difficile. En temps normal, Nietzsche aurait été ravi de croiser le chemin de son ancienne formatrice, et si possible, de régler avec elle de très anciens comptes. Mais ce n'était pas le moment. Bien dissimulée, elle regarda Alessandra s'éloigner puis se perdre dans la foule.